Comment vous allez ce matin?
Ça va? Par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Alors nous allons prendre le temps de se poser quelques instants. Juste de faire silence. Ne plus parler. Faire taire tout ce qu'il y a autour de nous. Et écouter ce que le Seigneur a à nous dire en ce matin. Prenons quelques instants de silence. En ce matin, Dieu trois fois saint, tu as voulu que nous soyons là. En ce matin, Dieu trois fois saint, tu as conduit nos pas pour te louer, pour t'adorer dans cette maison. En ce matin, tous ensemble, nous voulons faire silence dans nos cœurs, silence dans cette agitation du monde et nous centrer sur toi. Tu es le rocher de notre salut, tu es ce Dieu miséricordieux, véritable, rempli de compassion pour chacune de ses créatures. Et en Jésus-Christ, tu nous as placés à la droite du Père. Et nous voulons te dire merci de nos cœurs reconnaissants. Alors en ce matin, que l'homme soit abaissé et que toi seul sois élevé. Parce que toi seul es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, le psaume 18, au verset 46-47, « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. » Et il continue, « Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. C'est ce que nous sommes venus faire en ce matin. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Oui, et je chanterai à la gloire de ton nom. Bien-aimés, puissions-nous nous lever. Oublier ce que nous allons cuisiner en sortant du culte. Oublier nos enfants que nous avons laissés. Oubliez si nous avons eu des soucis dans la semaine, dans la journée. Et nous centrer sur la personne de notre Dieu. Nous allons l'acclamer parce qu'il est grand, parce qu'il est glorieux. N'est-ce pas? Oh, j'ai l'impression de n'avoir personne en face de moi. Il est fort et il est redoutable, ce Dieu que nous aimons, n'est-ce pas? Amen. Quand nous allons chanter, bien-aimé, tu es grand. Les hommes vont prendre avec moi, ah, et les sœurs vont suivre avec Anaël. D'accord? Amen. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu, bien-aimé. Acclamez Dieu.
Tu es grand,
grand et glorieux,
grand et
tu es roi,
tu es roi.
Présent, nous acclamons notre Dieu, celui qui nous a sauvés et ce pour l'éternité. Il est notre roi, il est notre force. Il nous a fait grand parce que lui est grand, n'est-ce pas? Et les louanges que nous lui offrons ici-bas, alors imaginez qu'est-ce que ce sera là-haut. Commençons dès à présent à le louer, ce Dieu merveilleux. Béni soit ton nom, béni soit le nom de notre Seigneur là où il donne l'abondance. Et il déverse sa bienveillance sur chacun de nous, n'est-ce pas? Béni soit ton nom, c'est le prochain chant, là où notre Dieu donne l'abondance.
Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom.
C'est bien fait.
Tu donnes et tu reprends. Tu
Alléluia.
Tiens, tu es incomparable. Tiens, tu es tout puissant. Tu as une puissance insaisissable. Seigneur, nous fléchissons ton genou pour t'adorer. Parce que tu es bon. Tiens, tu es de grâce. Un Dieu de souverain. Un Dieu qui nous dépasse notre intellect et notre connaissance. Seigneur, la voix, toute la voix de l'Église sur la terre. Que toute chair nous soit fléchie pour dire, tu es le Seigneur.
Amen. Salomon nous disait dans la parole de Dieu, il nous dit encore aujourd'hui, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand, bien-aimé. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. C'est le prochain chant que nous allons entonner tous ensemble. Et avec ceux aussi qui sont sur Zoom, le frère Georges avec la sœur José, Lucia de Martinique. Nous avons aussi Ornella et Harris sûrement. Et puis l'autre, je ne connais pas, mais Oppo A74, ils sont avec nous et nous louons tous ensemble. Et ceux qui nous suivent aussi sur YouTube, nous sommes tous ensemble pour bénir. Non, que le Seigneur nous bénisse. Et en retour, nous lui offrons notre corps, nous lui offrons nos pensées, nous lui offrons nos gestes, nous lui offrons nos prières de louange. Son serviteur aussi est devant lui. Ce n'est pas lui qui va parler, mais c'est le message qui vient de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand.
Tu es notre
soit le Seigneur.
Béni soit le Seigneur. Ce matin, Seigneur, je veux te dire merci parce que tu m'as restauré. Je veux te dire merci parce que ton amour coule sur ma vie jour après jour. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que là où j'étais faible, tu m'as rendue forte. Là où je suis tombée, tu m'as relevée. Et dans chaque instant de ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes frères et sœurs, tu es là. Et en ce matin, nous voulons te louer par nos chants, mais avec nos mots. Alors en ce matin, bien-aimés de Créteil, dites merci à votre Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux.
Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre et que tes œuvres proclament ta grandeur. C'est le prochain chant. Nous te bénissons. En Jésus-Christ avec lui pour l'éternité. Bien-aimé, quelle joie d'appartenir à notre Seigneur. Vous n'êtes pas joyeux? Moi, je suis dans la joie parce que Dieu m'a restauré. Vous pouvez demander à Raymond hier comment j'étais vraiment. Mais là, plus je chante avec vous, je chante mon Dieu et il restaure. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, hein? Béni soit mon rocher, que le Dieu de notre salut soit exalté. Quand nous invoquons le Seigneur, quand je glorifie son nom, quand nous glorifions son nom, il nous rend vainqueur sur nos ennemis, sur tous les ennemis, n'est-ce pas? Alors chantons quand j'invoque le Seigneur, bien-aimé. Et nous laisserons la place après à notre frère, oui, qui a à nous parler de la part de notre Seigneur en ce matin. Quand j'invoque le Seigneur bien-aimé.
Béni soit mon roi. Dieu de mon salut, sois exalté. Il est vivant, bénisse mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté.
Les sœurs. Jonas, tu peux remettre le chant, s'il te plaît? Nous allons lire ensemble, les sœurs. Quand nous invoquons le Seigneur sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos familles, lisez avec moi. Quand j'invoque le Seigneur, je glorifie son nom. Il nous rend vainqueurs. Amen. Il est vivant. Béni soit mon rocher. Mes sœurs, que le Dieu de mon salut soit exalté. Alléluia. Les frères, s'il vous plaît. Quand j'invoque, allez-y, mes frères.
Il est vivant.
Alors nous allons nous tenir les mains, bien-aimés. Nous allons nous tenir les mains et nous allons reprendre ce chant. Frères et sœurs ensemble. Quand nous invoquons le Seigneur, les montagnes se déplacent. Quand nous invoquons le Seigneur, la maladie s'enfuit. Quand nous invoquons le Seigneur, il envoie sa paix sur nous. Quand nous invoquons le Seigneur, nous sommes consolés. N'est-ce pas, Naël? Amen. Ce Seigneur tout-puissant, l'ennemi s'enfuit, bien-aimé. Parfois nous ne le sentons pas, parfois nous ne le voyons pas, mais dans nos prières, dans notre louange, la délivrance et la guérison s'opèrent. Amen. Invoquons le nom de notre Dieu sur toute situation de nos vies. Et ce que je vous dis, bien-aimé, je le prends pour moi. Invoquons le nom de Dieu chaque fois quand nous nous sentons faibles. Quand nous avons du mal à lire sa parole, quand nous avons du mal à fléchir le genou, et je sais que mon frère Grace va venir.
Sois béni.
Invoquons le nom de Dieu. Parce qu'en lui, nous avons la vie. En lui, il y a toute solution. Amen. Invoquons la vie de notre Seigneur sur nos enfants, sur tous ceux que nous connaissons. Sur notre travail, nos collègues de travail, parfois nous murmurons après eux. Invoquons la vie de notre Seigneur. Et c'est lui qui donne la paix, la joie, l'assurance qu'il combat pour nous. Bien-aimés, nous allons prier maintenant que le Seigneur puisse nous faire du bien au travers de sa parole, comme lui seul sait le faire. Notre Dieu, il nous dit dans sa parole, au psaume 119, « Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. » Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci à Willy, à Watson, à Géina, à Anaël, à Jonas, à Jessie. Merci à chacune de mes sœurs, à chacun de mes frères et à ceux aussi qui sont sur Zoom. Je vais appeler maintenant notre frère Eben. Pour le message que Dieu lui a donné.
Si tu savais.
Je sais, je sais.
Merci, ma soeur. Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci. Oui, je m'appelle Eben.
Eben.
Oui. Alors, j'ai la joie de vous retrouver et pour partager la parole de Dieu avec vous. C'est vrai, si c'est quelque chose moi-même dans la vie, je devais choisir, non, pas ça. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Et comme Amos a dit, Amos était un berger qui gardait des moutons et puis Dieu l'a appelé pour paître son troupeau, pour paître son peuple, pour écrire des oracles de Dieu. Dieu fait les choses comme il veut, à sa manière. Il n'a de leçons à recevoir de quiconque. Il est souverain, il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. C'est ce que nous dit la Bible. Et moi, je le crois. Parce que moi qui suis, je suis maman à 4 garçons, quand je vois les autres qui mènent leur vie, et moi je suis le seul à être dans ce milieu, donc je m'incline devant les seigneurs. Ce matin, je veux vous parler, je vous propose quelques textes de la Bible. Bien des jours, je suis en train de réfléchir avec la situation du monde, dans nos familles, un peu de bien des choses qui se passent. Je pense que chacun de nous, parents que nous sommes, nous mettons à réfléchir très souvent et de voir l'état de notre société. Je pense que c'est normal. Mais je fais un petit coup d'œil dans l'Église pour nos croyants aussi, pour voir la situation. Alors, avant de lire la première lecture que se fera en Jean 1er, mais ce que j'ai tellement de sujets, mais je vais les lancer, mais je vais en choisir un. La première chose, je me dis, mais que faire quand notre foi est troublée? Je parle ici, nous, des enfants de Dieu, des croyants, que faire quand notre foi est troublée? En deuxième lieu, je dis aussi, que faire quand le doute nous envahit? Et je dis aussi, et que faire quand la maladie nous frappe? Quand le chômage, par exemple. Et puis aussi, pour nos parents, quand nous qui avons des enfants chez nous, et puis tout à coup, nous avons un enfant qui fait la tristesse de maman, papa. Ça arrive, hein? Que faire? Mais je vais me contenter de rester avec ce petit sujet, qui n'est pas un petit sujet. Que faire quand le doute nous envahit? Ce petit sujet, nous allons essayer de parler dessus. Avant de lire le texte qui va être considéré comme la colonne vertébrale de notre exhortation de ce matin, je demande à mon frère Jonas de nous afficher Jean chapitre 1er. Nous allons sélectionner quelques textes là-dedans avant de voir Matthieu 11. Et dès qu'il vais-je vous parler, il y a plusieurs personnages qui rentreront en scène, mais je sélectionne la personne de Jean-Baptiste. Quand nous comprenons la venue de ce garçon, si j'ose dire ainsi, sa naissance, un papa qui était déjà âgé et également sa maman qui était déjà avancée en âge, mais Dieu l'a donné à cette famille, dans cette famille, et qui avait une mission bien déterminée. Alors, Jean, je fais juste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qui était Jean? Alors, nous l'appelons Jean-Baptiste, c'est par sa fonction après, mais bien avant Jean-Baptiste, son nom, quand nous lisons un peu partout en Matthieu, en Luc, son nom c'est Jean, son père était Zacharie, sa maman était Élisabeth. On est d'accord avec moi, hein? Les ados qui apprennent à l'école du dimanche, je pense que les enseignants font bien leur travail là-bas. Voilà. Alors que ce Jean-Baptiste qui arrive, au verset 19 de Jean, n'oubliez pas, hein, notre sujet, que faire quand le doute nous envahit? Voilà ce Jean, je vais illustrer ça comme ça. Vous savez que je disais dans une réunion, mes frères s'en souviennent, mes frères, le groupe d'hommes s'en souviennent. J'ai envie de dire que Jean-Baptiste, c'est comme s'il était les porte-parole ou bien les directeurs de campagne d'un candidat. Vous savez ce que c'est, nous sommes en France, nous savons, quand il y a une élection, il y a un candidat qui se présente. Et puis, il a toute une équipe qui organise son programme. Il y a un directeur, et c'est ce directeur-là qui mène la danse, si vous me passez l'expression. Et forcément, les directeurs de campagne et le candidat, ils sont tout le temps au téléphone. C'est normal pour savoir où tu as été bon dans ton discours, où tu n'as pas été bon. C'est comme ça. Je prends cet exemple pour pouvoir me faire comprendre. Alors, lisons Jean 1er. Je lis plutôt Jean 1er, verset 19. C'est quelques textes que je sélectionne pour vous montrer le doute. Qu'est-ce que ça peut faire dans la vie d'un être? Et entre-temps, en passant, je vous rappelle, vous vous en souvenez, dans le jardin d'Éden, la catastrophe qui a lieu à cause du doute. Vous vous en souvenez ou vous voulez que je vous en rappelle? On s'en souvient tous, le doute, la catastrophe que ça a entraîné dans le jardin d'Éden, et d'où le péché qui nous frappe tous. Il y a un document, j'ai pas pris, c'est mes lunettes. Alors je vais lire comme ça. Voici le témoignage, c'est Jean-Baptiste, le cousin de Jésus,
Jésus a 6 ans de plus que Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste qui rend témoignage, qui parle de son cousin Jésus. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, Jean, alors, ça c'est moi qui parle, toi, qui es-tu? Dis-nous, qui es-tu? » Il déclara et le nia. C'est bien ça? C'est bien le texte, frère? J'ai bien souligné le verset 20 comme ça? C'est ça? Bon, d'accord. Ok. Il déclara, c'est Jean-Baptiste qui parle, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Appuyé sur le mot Christ ici, appuyé sur le mot Christ, et ils lui demandèrent, les envoyés, qui donc es-tu? Qui donc es-tu, Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Alors, je vais prendre le verset 29. Pour faire court, pour gagner du temps, parce que j'ai des choses à dire. Et ce même Jean, dans le même chapitre, nous avons le texte, qui va dire à ses envoyés, et celui qui va venir après lui, voilà, il n'est même pas digne de faire la courroie de ses chaussures. C'est un témoignage, ce Jean qui parle, et Jean était en train de rendre un témoignage vis-à-vis de Jésus. Et dans ce même chapitre, dans le verset 29, Jean va dire à ses disciples, un texte que l'Église, qui est commun de nous tous, un texte qui nous est familier, très souvent nous le répétons ici, Jean va dire que voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici dans ce texte. Jean, son père était sacrificateur. Jean voyant très bien, voyait comment ça se passe dans le temple, les sacrifices. Il y avait toujours un bouc, et quand quelqu'un a péché, et quand Jean dit, c'est une parole profonde qui a des racines cette parole a des racines profondes. Quand Jean dit, voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Et Jean avait l'habitude de voir, quand un juif avait péché, il fallait, c'est un texte qui est repris, les gens qui étudient la théologie, ils savent ça très bien, c'est une parole qui est reprise, c'est une parole qui avait été dite en Lévitique chapitre 16, et comme Jean lui-même, c'était un juif, il connaissait très bien le judaïsme, le fonctionnement des choses, or, Jean a repris cette parole pour pointer du doigt, indexer Jésus de dire, voici l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Verset 29. Au verset 36, cette même parole est reprise dans Jean chapitre 1er, verset 36 de Jean. Maintenant, je recommence tout au départ de là où j'en étais, en Jean 1er, verset 19-20. Voilà que les Juifs, comme ils savaient que il devait y avoir un Messie. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous m'entendez bien là? Vous me captez? Je vous capte. Hein? Est-ce que vous me captez? Je ne veux pas une mouche bouge dans la salle. Je vous demande ça. Je prête votre attention. Nous ne sommes pas venus ici pour... La Bible me dit, dans notre Bible, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et je peux vous dire, c'est une bonne occasion quand nous sommes réunis comme ça pour parler de la parole de Dieu. C'est un moment solennel. Il y a un frère qui a cité le mot dans sa prière comme ça. Oui, c'est un moment solennel. Nous écoutons la parole de Dieu. Et lorsque les Juifs savaient qu'il y avait un Messie. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure le mot Christ. Ils savaient qu'il y avait un Messie qui devait venir. Mais quand Jean est entré en scène, rappelez-vous, il y avait 400 ans de silence. De Malachie à Matthieu, plus de prophètes. Plus de prophètes, plus de prophètes qui parlent au nom des dieux. Et Jean, la dernière fois, j'ai utilisé un mot, frère Georges va m'entendre, je disais le mot irruption. Alors, pas dans le sens péjoratif, mais je ne vais pas utiliser le mot irruption, mais je vais utiliser, il a fait une apparition, il est entré en scène. Et quand Jean est entré en scène, son message en Matthieu chapitre 3, verset 3, Jean va dire que « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mais il y a une foule de gens qui venaient, qui arrivaient dans tous les sens pour venir, pour se faire baptiser, confessant leurs péchés. Alors, Jean avait une popularité, si j'ose parler comme ça, et du coup, ça inquiète le Sanhédrin, les pharisiens à Jérusalem. De là, ils se disent, bon, celui-là, il faut qu'on sache qui il est vraiment. Et là, dans ce texte, dans Jean chapitre 1er, verset 19-20, et maintenant, l'interrogation, c'est de demander à Jean, dis-nous qui tu es. Est-ce que c'est toi le prophète, avant le prophète, dis-nous, expliquez-nous. Est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi le Christ? Je vous rappelle, pour nos jeunes, des anciens comme moi, le mot Messie dans la Bible signifie celui qui reçoit, c'est un oin. C'est quelqu'un qui est oin, qui reçoit un mandat. Et tout ce que je vous dis là, si nous lisons plusieurs passages bibliques, Isaïe, un peu partout. Jésus-Christ est loin des dieux, pas loin, L-O-I-N, L'O-I-N-T, celui qui est loin pour une mission, c'est un libérateur qui vient dans le sens que pour relever des défis. Et Jean n'a pas dérobé, Jean n'a pas usurpé pour dire que voilà qu'il est le Christ, il est le Messie. La seule chose, Jean se contenta de dire que, en Ésaïe, comme cette prophétie avait été prévue et dite à sa personne, il répondait, il est la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissant le chemin du Seigneur. Alors, il y a d'autres interrogations. Est-ce que tu es le prophète? Les Juifs savaient qu'il y avait un Messie qui devait venir. Mais Jean, seulement, il a donné comme réponse, « Non, je ne le suis pas, simplement je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissant le chemin du Seigneur. » C'est pour vous dire que voilà quelqu'un qui avait un témoignage solide, un témoignage fort, et qu'est-ce qui va se passer avec ce Jean? C'est pour dire que, aujourd'hui, comme notre sujet, c'est que faire quand le doute nous envahit. Ah, que faire quand la maladie frappe à nos portes? Que faire quand, par exemple, père de famille que je suis, vous comprenez, je ne suis pas en train d'indexer personne parce que je ne connais vraiment pas la vie de frères et sœurs ici, mais je vais prendre l'exemple. Quand père de famille que je suis au chômage longue durée, alors que en tant que père de famille, voyez-vous, on a des responsabilités, on doit faire face. Que faire? Voilà ce monsieur, ce Jean, qui était un témoin de Jésus, qui était dans une situation, et la situation maintenant, on va voir ça en Matthieu chapitre 11. Frère, comme je n'ai pas mes lunettes, merci. En Matthieu chapitre 11, nous allons voir que Jean se trouva en prison. Mais on va chercher à comprendre pourquoi. Voici le témoin. Matthieu 11. C'est bon? Merci. Voilà, au chapitre 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset, je ne me rappelle plus, c'est noté devant moi. Hein? Jusqu'au verset 6. Voilà que Jean, se trouvant dans cette prison, le texte nous dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, toujours du Christ, le Messie, loin des dieux, celui qui devait venir. Ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui devait venir ?» Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien. Voilà Jean, je parle de Jean-Baptiste, le témoin de Jésus-Christ, ce Jean qui a vécu avec lui, qui a rendu témoignage de Jésus-Christ. Et là, voilà un doute dans sa vie. Verset 3, « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il n'y a pas de quoi de se poser la question ici. Moi, je pense oui. Comment peut-on comprendre cela? Un croyant, un disciple, un directeur de campagne, un porte-parole, voilà qui arrive à un moment tel, voilà, il se pose des questions. Mais ça, il y a un arrière-plan de cette question. Comme les Juifs attendaient un Messie, et Jésus lui-même, Jean lui-même, savait que Jésus-Christ était le Messie. Et voilà que dans sa foi, et Jean s'interrogea en voyant ses disciples pour aller demander à Jésus, est-ce que faut-il en attendre un autre? Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien lui? Alors, moi, aujourd'hui, je me dis pour nous, chrétiens, il y a des situations, comme tout à l'heure, je disais au préambule, nos parents, quand on est face à des situations, soit moi j'ai vu pendant cette année 2023, je vois trois familles proches qui ont perdu, il y a une qui a perdu un garçon de 9 ans. Le 20 décembre dernier, j'ai assisté à un enterrement, un père de 60 ans qui a enterré son fils aîné de 30 ans, sans malade. Je vous dis ça en passant. Le garçon, il est mort un vendredi. Les parents sont là, ils ne savent pas. Ils sont au courant dimanche. Voyez-vous? Et ce sont des frères dans la foi. Donc, quand ces genres de situations frappent à nos portes, nous nous interrogeons, nous sommes déstabilisés, nous nous disons, mais est-ce qu'il y a un Dieu, comme certains le disent? Et je vous conseille en vérité, il y a bien des choses sur Internet, YouTube, vous ne mieux pas les regarder, parce que ces choses-là peuvent mettre votre foi en doute. Parce que moi, je vois des choses, je ne dis pas que je suis profond, non, je ne sais pas. Mais ces choses-là, même si je les regarde, j'ai envie de dire, je sais en qui j'ai cru, je ne vais pas me laisser détourner. Mais il y a des gens qui ne sont pas très enracinés, qui sont capables de se laisser aller facilement. Voilà que Jean envoie ses disciples auprès de Jésus pour un compte rendu. Dis-nous, dis-moi, est-ce que c'est toi le Messie? Faudrait-il qu'on en attende un autre? Ou bien c'est toi? Et de qui? Moi, Jean, j'ai rendu témoignage de toi. Moi, Jean, j'ai pointé du doigt, je dis plusieurs fois, oui, voici l'agneau des dieux. Connaissant ce qui s'est passé dans le temple de Jérusalem, il y a eu des sacrifices. Donc, à un moment donné, on ne va plus avoir besoin d'un bouc. Jésus-Christ, il va être le seul sacrifice, le seul sacrifié pour l'humanité. Alors, voilà ce ce prophète Jean, sa foi a pris un coup. Alors, maintenant, peut-être vous allez me demander, c'est logique si vous me posez la question, mais Eben, pourquoi Jean était-il emprisonné? C'est une question logique, fondamentale, parce que si vous ne posez pas la question, vous allez vous dire, mais est-ce qu'il avait fraudé? Est-ce qu'il n'avait pas déclaré ses impôts comme il faut? Voyez-vous, est-ce qu'il... Bon, voilà. Ça fait sourire. Non. J'ai envie de vous dire qu'il y a un frère, juste avant les grandes vacances, un mardi soir, qui a présidé à une réunion ici, qui dit, il va peut-être s'en souvenir, mais je ne vais pas citer son nom. Il avait dit que quand on est chrétien, la souffrance est notre lot. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, Jésus, si nous lisons en Matthieu chapitre 14, Jésus nous dit que les serviteurs n'est pas plus grand que son maître. Et voyez-vous, Jésus, qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit de lui? Au point même, on lui a traité Belzébul. Vous savez ce que ça veut dire? Le diable. Donc, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit de lui? Alors maintenant, en Matthieu chapitre 14, nous allons voir la raison pour laquelle Jean avait été emprisonné. Ça vous intéresse de le savoir? Ah ben, mais notre frère va nous afficher ça. Merci mon frère. Maintenant, le texte de chapitre 14 nous dit que voilà, merci frère. Je n'ai pas le temps pour gagner du temps, je n'aurai pas le temps pour dire qui était Hérode, mais c'était un représentant romain. On l'appelle roi, mais je ne sais pas s'il était exactement roi ou bien un préfet ou un procureur, mais c'était un haut placé. La Bible nous dit, je lis, car Hérode qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir pour femme. Je me fais comprendre, tout le monde m'entend là? Voilà. Vous savez que ce soit... Moi, je parle de moi-même là, dans ma famille, je sais souvent, depuis tout petit, j'ai un frère aîné qui m'a toujours traité avocat. J'avais l'âge de 14-15 ans. Et je ne savais même pas trop encore qu'est-ce que c'était. J'ai été toujours taxé d'être avocat. Pourquoi? Parce que j'aimais toujours prendre la défense des autres. Je ne supporte pas ça. Ne me fais pas ça et ne fais pas ça aux autres. Avec moi, ça ne passe pas. Bon, bref. Voilà que, je vais dire que par là, pour nous chrétiens, il y a des choses qui nous sont insupportables de rester les bouches fermées. Non, que ce soit dans l'église, bon, dans l'église ou bien dans nos familles, bien dans la société, nous sommes limités dans la société, mais dans nos familles, dans l'église, ce n'est pas parce que je suis magistrat, je ne suis pas juge, mais il y a des choses, non. Il faut voir les choses en face. Non, il y a des choses, on ne peut pas accepter ça comme ça. C'est pour la communauté, la chose n'est pas bonne et ça peut affecter plus d'un. Non, ce n'est pas bon. Et nous voyons, et ce texte-là, si nous voulons donner un nom, on dirait que ça s'appelle l'inceste. Ça ne se fait pas. Voilà, c'est une vérité, comme on dit, toutes vérités ne sont pas bonnes à dire, mais il faut le dire. Jean-Baptiste, un serviteur de Dieu, connaissant ce que dit, si vous lisez Lévitique chapitre 18, vous allez voir ce que dit ce chapitre, Lévitique, tout ce qui est lien familial, un cousin et une cousine, frère, sœur, des liens comme ça, la Bible nous met en garde contre ça. Alors, c'est pour cette raison, Jean-Baptiste a été mis en prison parce qu'il avait fait une déclaration et qui était tout à son honneur de dire à Hérode, cela n'était pas permis de prendre la femme de ton frère pour ta femme. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et ça, ce que je suis en train de vous dire là, comme nous avons des jeunes parmi nous, si nos jeunes, ils prennent le temps, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il y a des choses qu'on fait souvent, on les fait dans l'ignorance. Je me permets de dire cela. Vous savez, des relations proches comme ça, souvent il y a des maladies. Je ne suis pas médecin, je ne veux pas dire des choses que je ne dois pas dire, mais tout ce qui est, par exemple, cousin, cousine, frère, soeur, ces genres de choses comme ça, évitez. Et nos parents, il est de notre devoir, parce que nos enfants, ils grandissent, ils ont 12 ans, 15 ans, 13 ans, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. C'est à nos parents aussi de leur dire, ça c'est ta cousine, ça c'est ton cousin. Vous me comprenez? Je ferme la parenthèse, d'accord? Je ne suis pas le pasteur de l'église, mais je suis un chrétien qui ayant un peu de bon sens, je sais qu'il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, surtout avec la biomane. Ok. Dans Lévitique chapitre 18, verset 16, qui reconfirme les mêmes propos. Maintenant, la question, je reviens en Matthieu chapitre 11, c'est la question que Jean avait envoyé ses disciples demandant à Jésus, est-ce qu'on doit en attendre un autre ou bien est-ce que, dis-nous ouvertement, est-ce que tu es le Christ? Mais Jésus, comme un vrai pédagogue, Jean connaissait aussi ce que Jésus va lui envoyer dire. Regardez, en Matthieu chapitre 11, tu vas nous afficher, s'il te plaît, merci beaucoup. Au verset 4, voilà, Jésus rentre en scène après avoir écouté la déclaration, la demande qui lui avait été faite de savoir est-ce qu'il est réellement le Messie ou pas. Ou bien est-ce qu'on doit en attendre un autre? Vous savez, ce que je vais vous dire là, il n'est pas étrange pour vous. Ce que j'aimerais vous rappeler, imaginez-vous Jean-Baptiste qui connaissait Jésus, qui était son porte-parole, si j'ose dire ainsi, arrive à un moment comme ça, et nous voyons, c'est ce qui se passe. Jésus va dire que en Jean chapitre 11, Jean chapitre 1, verset 12, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas reconnu. Et c'est ce même sujet qui continue dans notre société, alors que Jésus est venu déjà bien longtemps. Jésus est né comme Messie. Mais la société, pour certains, l'attend encore. Il y a un Messie qui doit venir. Alors, maintenant, Jésus rentre en scène, répond à Jean-Baptiste. Jésus leur répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Et ça, cette parole, c'est une parole vétérotestamentaire, c'est une parole de l'Ancien Testament, qui avait été annoncé en Ésaïe chapitre 61 ou bien en Ésaïe 35, là où ces prophéties ont été faites, disant que voilà, l'Esprit du Seigneur, c'est la parole qui est reprise en Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Comme je vous disais tout à l'heure, le mot Messie ou le mot Christ, ils ont la même racine, d'après ce que je comprends, et la signification, c'est celui qui est oint, c'est un libérateur. Jésus répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et Jean lui-même connaissait ces paroles. Et alors, c'est quoi qui se passe? C'est quoi vous voyez? Et c'est quoi vous entendez? Voilà, maintenant, verset 5, les aveugles voient. Alors, les aveugles voient, nous, Nous connaissons un peu partout quand Jésus, dans son ministère, Jésus, c'était l'homme du peuple hein, qui parcourait de lieu en lieu, prêchant, annonçant la bonne nouvelle, guérissant les malades et relevait aussi ce qui était par terre. Le texte nous dit, en les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Nous allons peut-être faire quelques exercices dans les évangiles pour voir que des choses que Jésus avait opérées dans la vie de certains. Déjà, si nous prenons Marc chapitre 7, verset 32, pour gagner du temps, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire tout ça, mais si tu peux me l'afficher, frère, s'il te plaît. Matthieu chapitre 7, verset 32-37, on va simplement survoler pour voir la réponse de Jésus. Ce n'était pas seulement abstrait, mais c'était concret. Des gens qui étaient malades, comment Jésus les a guéris. C'est bon? Ok. En Matthieu chapitre 7, Marc chapitre 7, verset 32-37, Jésus, on lui amena un monsieur, un sourd muet, quelqu'un qui était muet, sourd, qui très souvent, il me semble, les gens qui sont muets, souvent, ils ont ces deux pathologies en même temps. Et que fait Jésus quand on lui amena ce monsieur? Jésus l'a guéri. Amen. C'est l'une des actions. C'est comme si j'ai envie de dire que c'est dans son cahier de charge, dans son programme, depuis Ésaïe chapitre 61, ce qui avait été prévu et dit, et Jésus est en train de mettre en exécution dans son cahier de charge ce qui avait été prévu. Les sourds entendent, les muets parlent. Jésus, ayant cette autorité comme Messie, il a pu faire ce genre de choses de manière concrète. Et nous avons aussi en Marc chapitre 9 verset 25, un monsieur toujours un enfant un démon l'avait possédé. Jésus, ayant l'autorité sur ces démons, a pu dire à ces démons, il l'ordonne, il les commande de lui dire, sors. C'est toujours dans le cahier de charge de Jésus-Christ comme Messie. Et nous avons en Matthieu chapitre 9, verset 24-25, une fille qui était morte. Jésus, vous savez, il y a des beaux parleurs. Non seulement il y a des beaux parleurs, les moqueurs, ça ne manque pas. Quand cet enfant, cette fille était morte, le père de l'enfant a fait appel à Jésus. Et lorsque Jésus est arrivé, il y a toute une pléiade de gens. Bon, il y en a de toutes sortes, j'ai envie de dire. Il y en a ceux qui sont là par compassion. Et il y en a aussi qui sont là pour la médisance. Pardon de dire ça comme ça. Mais Jésus, ayant l'autorité, Jésus, le Messie, le Maître, les gens disent ce qu'ils voulaient, mais Jésus, avec son autorité, il a pris l'enfant et il l'a ressuscité, si j'ose dire. Il l'a fait revenir à la vie. Voilà l'autorité, le pouvoir de ce Messie qui avait été promis. Et j'aimerais plus ou moins m'avancer pour terminer. Jésus aussi a guéri des lépreux. Ça, nous connaissons tout ça. C'est que des rappels. Jésus a l'autorité pour faire des choses extraordinaires. Et c'est sa mission, c'est son autorité. Alors, j'ai envie de vous dire que, pour revenir à notre sujet en passant, quand le doute nous envahit, bien-aimés, nous avons intérêt à fixer nos regards sur Jésus. Nous avons vu avec le groupe d'hommes un homme qui avait été mis à mal. Ce monsieur Job, je ne sais même pas comment décrire sa situation. Mais il n'a pas, malgré le conseil de sa femme, il a tenu bon. Il n'a pas nié l'existence de Dieu. Je crois que c'est un exemple. Je crois que c'est un exemple. Franchement, je crois que c'est un exemple à garder. La situation de Jean-Baptiste, elle n'était pas glorieuse. Hein. Étant en prison, et finalement, vous savez comment sa vie va être terminée? Il a été décapité. Et j'ai envie de dire juste un petit conseil à l'Église. Nos parents, nous devrions être très vigilants vis-à-vis des conseils que nous prodiguons ou bien nous transmettons à nos enfants. Vous savez que la maman de cette jeune femme était complice dans cet assassinat. Parce que comme Hérode était un haut placé, c'était un haut gradé, et la parole d'un roi est irrévocable. Et il avait dit avec serment, et cette jeune femme, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Et voilà, puisque Jean-Baptiste, était une pièce gênante, ou bien si je veux dire ça comme ça, était un troubleur, c'était quelqu'un qui met le trouble dans cette relation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et malheureusement, cette jeune femme a été voir sa maman, demander des conseils, et sa maman lui a dit que voilà, demander la tête de Jean-Baptiste. Vous savez, attention, parce que les conséquences peuvent être très graves. Et pour terminer, toujours Jésus, on marche en... En Luc, chapitre 17, verset 14-20, Jésus rencontre un cortège. Ah, ça c'est extraordinaire ça. À votre avis, quel type de cortège? Mariage ou bien quoi? Un cortège funéraire. Waouh! Ah, moi je vais servir Jésus, hein. Et ce cortège funéraire, la Bible nous explique, c'est une maman veuve en Israël, une maman veuve en Israël, ce n'était pas une mince affaire, ayant un seul enfant, et cet enfant est mort. Maintenant, Jésus, deux cortèges, il y a le cortège de Jésus, il y a un cortège funéraire. Ok. Et de là, Jésus a dit, attends. J'ai quelque chose à dire, ça j'aime bien ça. Ça c'est moi qui parle. Hein. Jésus dit, attends, je vais dire quelque chose, j'ai quelque chose à dire aux morts. Il demande au porteur, nous n'avons pas le texte, hein, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Pardon? Oui, c'est Luc 17. Hein. Et Jésus dit, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à dire aux morts. Et on a déposé les cercueils. Et Jésus a parlé aux morts. Il a dit aux morts, jeune homme, lève-toi. Voilà l'œuvre du Messie. Voilà ce que notre Jésus est capable de faire. Vous savez, quand on parle de Jésus comme ça, si on n'a pas fait des expériences avec lui, on ne peut pas comprendre exactement ce qu'il est capable de faire. Mais quand nous, on a fait des expériences avec Jésus, notre foi est bien enracinée, bien profonde en Jésus-Christ. Mais si... vous ne l'avez pas expérimenté. Quand on parle comme ça, oh, c'est de gens, bon voilà, après une semaine de travail, bon voilà, ils viennent juste pour passer le temps. Non, moi je ne suis pas venu ici pour passer le temps, c'est sérieux, je sais que d'où Jésus m'a pris, donc je sais en qui je crois, Voilà, ma foi est en Jésus-Christ. Alors, que faire quand le doute envahit notre cœur? Que faire? Faut-il démissionner? Ou bien faut-il avancer? Ou bien faut-il prier? Ou bien que faire? Non. Quand le doute, je sais, moi aussi, je suis l'objet de ça aussi. Je sais, je suis l'objet des attaques, je suis l'objet des critiques, je suis l'objet de comme vous, je suis comme vous, mais cela ne me fait pas démissionner. Donc, quand le doute nous envahit, ayons le regard fixé sur Jésus. Gardez à lui, parce que notre Seigneur nous fait cette promesse. Il nous dit, alors, c'est vrai, quand la tempête se lève, mais Jésus nous dit, il est toujours avec nous. En plus, il dit tout le jour. Et je comprends, en fait, il y a des situations, quand cela nous arrive, comme dit l'expression, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Oui, je comprends ça. On est des êtres humains, parce que nous ne nous y attendons pas. Et tout à coup, je prends l'exemple de cette famille. Un vendredi, la famille était à l'église tous les week-ends. Ils ont été dans leurs activités. Voilà. Ne sachant pas ce qui se passe. Et puis, un dimanche soir, la police, vers 20h, parce que le monsieur, on est proche, on se connaît, on se voit tout le jour, on se parle tout le jour. C'est un frère dans la foi, on se parle tout le jour. Et puis, un dimanche matin, non, un lundi matin, vers 5h20, je suis au travail. Et je vois un message sur mon téléphone. Bien-aimé, je lis 3 fois le message pour comprendre ce qui s'est passé. 3 fois. 3 fois. Et je tremble. Je tremble. Quand le frère m'a dit, m'envoie le message pour me dire, mon fils est né à moi. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et il y a des faits qui nous... Il y a des choses qui nous arrivent. Nous sommes déstabilisés. Mais... Si nous prenons l'exemple de Job, qui a perdu ses enfants, qui a perdu ses biens, qui a perdu tout, sa peau, non, ici au-dessus de cette chair, je ne sais combien de fois le nom Job est cité, mais c'est un exemple pour nous. Pourquoi il est un exemple pour nous? Parce qu'il a tenu bon, il n'a pas démissionné. Ayons le regard sur Jésus. Quand le doute nous envahit, quand le doute prend place, quand le doute veut nous emporter, je ne sais où, mais ayons le regard sur Jésus. Et Jésus nous fait cette promesse en Matthieu 28, verset 20. Il nous dit, il est toujours avec nous. C'est lui qui nous fait la promesse. Il nous dit, il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Voilà. Je comprends que la situation dans nos familles, au travail, ça peut être difficile. Mais Jésus est là parce qu'il nous fait la promesse. Quand le doute nous envahit, pensons, Jésus est là. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Quand le doute s'installe, quand l'angoisse devient de plus en plus présente, l'anxiété s'installe, nous savons que le Seigneur est là. Amen. Nous allons chanter ce dernier chant. Ensuite, je demanderai à l'un des garçons du groupe, soit Joël, Ethan, peu importe, quelqu'un d'autre, de se lever pour passer les offrandes. Joël, souris, ne regarde pas comme ça. Oh. Nous aurons ce temps de bénédiction avec Émile. Et nous continuerons notre culte pour l'achever. Bénis l'Éternel, mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, nous savons qu'il est là. Amen. Amen. Écoutons la voix de notre Dieu. Écoutons la voix de notre Dieu. Quand tout s'effondre, sombre, nous savons qu'il est là, bien-aimé. Et que nous importe si les portes se ferment sur nos pas. Nous sommes humains, c'est normal qu'on doute, c'est normal. Mais que nous puissions nous reprendre par la grâce de Dieu et nous mettre debout, nous commettez-nous debout au nom de Jésus. Et nous le suivons. Parce que nous sommes limités, mais lui, il est illimité, c'est le Dieu de l'impossible. Alors ne doutons pas, bien-aimés. Nous avons un Dieu qui a déjà tout vaincu pour nous, tout combattu pour nous, tout remporté pour nous. Et en retour, nous ne pouvons que le bénir. Bénis l'Éternel, mon âme, que nous soyons émerveillés par sa fidélité. Oui, rien ne dépendra des circonstances qui nous entourent. La seule chose qui demeure, c'est son amour. Amen. Amen. Bien-aimés, asseyez-vous.